vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.
Une mission spéciale, Bleu du Carin, et parmi tous les trésors culinaires des Hautes-Alpes, en voici un qui fait la fierté du département et surtout la fierté des habitants de la vallée. D'où il vient, c'est ce Bleu du Carin. Alors vous le connaissez, j'en suis certain, cette petite croûte un peu jaune-gris, pas onctueuse, de couleur crème, pâte persillée, c'est la star de cette émission aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur le Bleu du Carin. On va suivre son processus de fabrication jusqu'à votre assiette, autour de cette table de l'assiette également et de cette star du bleu, puisque nous en avons un petit échantillon sur la table. Nous accueillons Anaïs Signoret. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Vous occupez de la chambre d'agriculture. On va tout savoir sur le label de l'appellation d'origine protégée qui a été lancé depuis 2017 pour ce bleu du Carin. Nous accueillons également Jérôme Tramuset qui est artisan fromager. Bonjour.
Bonjour.
Et Alexandre Lagier, vous êtes producteur de lait dans le Carin. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes par téléphone avec Christophe Calais, qui est le patron de la fromagerie La Crèmerie du Coin, rue Colonel Roux, à Gap. Bonjour Christophe.
Et bonjour.
Tout va bien Christophe, pas dans les studios
tout
ce matin, on se rassure, c'est juste voilà, une petite question de Covid qui n'est pas avec nous ce matin, rassurez-nous, tout se passe bien.
Tout va très bien.
Parfait. Alors, émission spéciale consacrée à cette star, le bleu du Carin, fabriqué donc à base de lait de vache. Alexandre Lagier, vous êtes installé en Gaecte avec votre papa et votre compagne, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Saint-André-d'Embrun. C'est quoi comme race de vache que vous avez dans votre cheptel?
Alors nous, on a essentiellement de la race tarentaise, donc la race qui est faite souvent dans la vallée de la Tarentaise, Beaufortin, pour faire le Beaufort. Donc là, c'est une des trois races qui est autorisée dans le bleu du Carin. Mm-hmm. Donc nous, on est installé depuis des années en cette race-là.
C'est quoi comme race qu'on utilise pour le bleu du Carin? Il n'y a pas que celle-là, j'imagine?
Alors, il y a l'Abondance, qui est une race aussi, une race de montagne, qui est beaucoup dans la Haute-Savoie. Mm-hmm. Et beaucoup d'élevage d'Abondance aussi dans les autres Alpes. Et la Montbéliarde, parce que c'est quand même une des races aussi qui est très très présente chez nous, et qu'on ne pouvait pas passer à côté pour la mettre dans cette AOP.
Vous avez une particularité, c'est que votre carrière, vous vendiez votre lait à l'époque à Sodiaal. C'était exclusivement votre production de lait partait à Sodiaal. Et ensuite, vous avez décidé d'arrêter ce système et de transformer vous-même votre lait et de le vendre à des producteurs locaux. Pourquoi vous avez fait ce choix?
Alors en fait, c'est en 2004, quand je me suis installé, quand je suis sorti du lycée agricole, mon père était chez Sodiaal à l'époque, en agriculture biologique, et on a eu l'opportunité de partir à une fromagerie, donc une petite fromagerie qui appartient au producteur, qui est située dans le Carin. Donc cette fromagerie nous a accueillis, on est parti là, et donc notre lait est transformé là-haut. C'est une petite fromagerie, c'est une coopérative en fait, qui appartient à 9 producteurs. Et on a à peu près 13 salariés qui font le fromage, la vente, l'affinage. Et aujourd'hui, c'est une fromagerie qui est située juste après Château-Carin.
Je vous donne quelques chiffres comme ça de la filière laitière dans les Alpes du Sud et dans les Hautes-Alpes particulièrement. C'est plus de 4700 cheptels dans les Hautes-Alpes en 2020-2021, 1051 dans les Alpes d'Haute-Provence. Le lait de vache sur la région PACA, c'est environ 265 000 hectolitres. Et sachez qu'il y en a quand même plus des deux tiers qui viennent des Hautes-Alpes. C'est 195 hectolitres qui viennent des Hautes-Alpes, ce qui est quand même assez énorme. Finalement, il y a beaucoup de concurrence et finalement, c'est un peu le pétrole blanc, le lait des Hautes-Alpes.
Mais c'est vrai que nous, les Hautes-Alpes, c'est quand même le réservoir laitier de la région PACA. Il y a un petit peu le nord du 04 qui produit avec une autre fromagerie qui est située à Barcelone. Et sinon, c'est vrai que les Hautes-Alpes, c'est quand même, ça a toujours été le grand réservoir. En bas, il y en a quelques-uns qui sont dans le sud, qui font plus de la transformation fromagère, de la vente directe. Mm-hmm. Et nous, aujourd'hui, ici, on avait quand même une déprise des terres depuis plusieurs années. Donc la quantité de lait dans le département a énormément baissé. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans un tournant avec une demande de lait de plus en plus forte par les fromageries, par des nouveaux arrivants dans notre département. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver à installer des nouveaux jeunes en production laitière pour pouvoir satisfaire toute cette demande et bien sûr satisfaire aussi un litrage suffisant pour pouvoir faire fonctionner le bout du Carin.
Vous produisez combien de litres de lait, vous, par an?
Nous, on a environ 200 000 litres.
C'est difficile, vous êtes jeune, c'est une entreprise familiale, et c'est vrai que c'est compliqué de transmettre. Votre papa avait, vous, cette entreprise auparavant, c'est vous qui l'avez récupérée, mais le but, pour avoir lu dans différents magazines votre engagement, c'est compliqué de moderniser et de gagner très bien sa vie sans avoir une très grosse entreprise. Comment vous arrivez à jongler avec ça ?
Très grosse, je ne sais pas si on peut dire très grosse, parce que dans notre département, on ne fait pas partie des... Je ne pense pas qu'on ait des très grosses exploitations, parce qu'on a une moyenne qui est assez basse par rapport au niveau français. Mais je pense, oui, pour pouvoir vivre, il faut avoir une exploitation qui soit correcte, pour pouvoir avoir des agriculteurs qui vivent sur le terrain, ça veut dire des exploitations qui soient viables, et qui soient vivables aussi, parce qu'aujourd'hui, si on a des exploitations comme dans le temps, on n'aura pas de jeunes qui pourront s'installer.
Pourquoi ?
Par rapport au temps de travail, aujourd'hui, un jeune qui va s'installer en agriculture, il va falloir aussi qu'il ait une vie de famille, comme tout autre jeune qui fera un autre métier. Mmh. Et je pense que la modernisation, les nouveaux bâtiments, la création de GEC entre personnes différentes, ça va apporter plusieurs éléments pour améliorer la vie de famille, la vie de tous les jours de l'agriculteur. Mmh. Et bien sûr, l'obligation, c'est d'avoir une ferme qui soit un petit peu plus grosse, parce qu'il faudra sortir plusieurs salaires. Donc la modernité, elle passe par là, je pense. Mmh.
Avec Jérôme Trémuset, qui est fromager, artisan fromager à la fromagerie de la Durance, vous vous êtes rencontrés, vous travaillez ensemble ?
On travaille ensemble quand on a des problèmes dans ma fromagerie, dans la sienne. On sait comment faire par rapport à des problèmes de collecte, à des problèmes d'arrêt de fabrication dans les structures. Donc oui, on s'entraide un petit peu comme ça. Mmh. Ensuite, on se connaît depuis quelque temps. C'est vrai qu'on travaille énormément ensemble sur le bleu du Cara, et c'est vrai qu'on est très présent sur ce domaine-là.
Quelle est la particularité du lait du bleu du Cara en ce qui vous concerne ?
Donc déjà, le lait, c'est un lait de montagne, donc avec des vaches qu'on a dit tout à l'heure, qui sont répertoriées, en lait de foin, parce qu'on n'a pas le droit d'ensilage. Donc ça reste un lait qui va rester assez typique, avec un goût.
Donc concrètement, c'est l'été, elles sont dans les alpages, elles mangent du foin, elles mangent de l'herbe grasse, et l'hiver, par contre, c'est uniquement du foin.
C'est ça. Il y a un cahier des charges qui a été rédigé, avec tout un protocole d'alimentation, d'un nombre de jours de pâturage, un zonage aussi, qui a été défini aussi, sur une partie du département. Donc tout ça, ça va créer un lait déjà de qualité, et un lait qui va être affiché à un territoire.
Mmh. J'ai lu que le lait acheté en local est mieux rémunéré que si vous vendiez votre lait à des grandes filiales comme Sodiaal, Biolay, etc. C'est vrai ça ? Vous rémunérez plus de 30% plus cher que le lait normal ?
Je pense que les fromageries aujourd'hui qui ont leurs producteurs en direct, comme nous, comme Jérôme, oui, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir rémunérer les producteurs plus une rémunération plus élevée que Sodiaal ou Lactalis ou Biolay aujourd'hui. Oui.
Donc ça peut inciter encore des jeunes à venir s'installer ? Il y a encore de la place pour venir s'installer ?
Il y a de la place pour s'installer, bien sûr. Il y a de la place. Ça dépend des secteurs aussi du département. Hein. Il y a des secteurs qui sont plus prisés, d'autres un peu moins. Et oui, il y a encore de la place. Et je pense qu'il faut pousser là-dessus pour pouvoir arriver à installer des jeunes un petit peu dans tout le territoire.
Revenons sur ce bleu du Cara. Le lait, c'est dans le cahier des charges. Il vient exclusivement du Cara, ou il peut venir un petit peu aux alentours. La frontière, elle est où ?
Alors non, il vient pas exclusivement du Cara, sinon on ferait pas beaucoup de lait, pas beaucoup de fromage. Okay. On n'aurait pas besoin de l'exporter très loin. Non, le bleu du Cara, en fait, il y a un zonage qui a été défini par l'association. On a travaillé sur... une stagiaire a travaillé pour nous pendant 6 mois pour définir ce zonage, définir un petit peu tout ce qui est historique. Et à partir de ça, on a un zonage pour la collecte de lait, la transformation, l'affinage, qui va partir de tout le nord du département, donc Briançon, Cara, Lambrunet, et qui va aller jusqu'à tout Champzon.
Très bien. Jérôme Trémuset, on vous accueille fromagerie de la Durance à Guillestre. Vous êtes aux portes du Cara, vous êtes installé depuis 2002. Donc vous transformez le lait local, en particulier ça pourrait être le lait de Monsieur Lagier. Et vous fabriquez entre autres le bleu du Cara, mais pas que. Vous avez gagné la médaille d'argent pour un fromage à raclette à la truffe lors du concours général agricole à Paris. Vous faites 2600 tonnes de fromage par an. C'est quoi la part du bleu dans tout ça, dans ce tonnage ?
Donc le bleu représente à peu près, je dirais, 10-15% du volume de lait qu'on transforme sur la fromagerie. Donc oui, ça À la fromagerie de la Durance, on transforme à peu près 3 millions de litres de lait sur l'année. Et le bleu du Kira va représenter aux alentours de 350 000, 450 000 litres de lait. On va faire entre 40 et 45 tonnes de bleu du Kira sur la fromagerie. Voilà.
Alors ensuite, vous les dispatchez, vous les revendez à qui? C'est que du local, c'est en circuit court ou vous les envoyez un peu partout en France?
Donc à la fromagerie, 35% du volume qu'on transforme est à peu près vendu sur le magasin, en vente directe. Mmh. Donc c'est-à-dire toute la partie, je dirais, touristique qui viennent sur notre département. 60% sortent du département. Donc c'est des grossistes soit sur Paris, soit sur Lyon, soit sur la Savoie ou Aix-en-Provence. Et le reste du volume est vendu donc localement dans des magasins tels que voilà, des grandes surfaces, des crèmeries, des restaurants, des hôtels. Voilà.
D'accord. C'est quoi le processus? Il y a un processus différent pour fabriquer le bleu du Kira? Alors si on peut comparer, je sais pas, la fourme d'Ambert, le bleu d'Auvergne, c'est quoi la différence et qu'est-ce qui est la spécificité de ce bleu du Kira? À part le lait qui est évidemment a priori un peu plus parfumé.
Donc oui, comme disait Alexandre, c'est du lait de montagne. Donc la montagne dans les Hautes-Alpes, on va dire qu'on est relativement haut en altitude. Voilà, les producteurs vont de à peu près 900 mètres d'altitude jusqu'à plus de 2000 mètres. Donc c'est déjà très, très élevé comparé aux Savoies. Et après, nous, en fabrication, donc c'est le lait exclusivement transformé en l'état, c'est-à-dire au lait cru, sans écrémage, donc au lait entier aussi. Comparé, voilà, vous parliez de la fourme d'Ambert, fourme de Montbrison, où la fourme d'Ambert est aussi transformée au lait pasteurisé. Mmh. L'origine du lait, voilà, et on est sur une zone qui est relativement restreinte par rapport aux autres appellations à pâte persillée, telles que voilà, la fourme d'Ambert, le bleu d'Auvergne, où les zones sont beaucoup plus grandes. Et après, au niveau de la transformation, je dirais, on n'a pas apporté de contraintes supplémentaires de ce qui existe déjà. On n'a fait qu'écrire les pratiques des fromageries actuelles.
Qu'est-ce qui vous a appris à fabriquer le bleu du Kira? Parce que le bleu du Kira, ça remonte au XVIIIe siècle. Il y avait des traces en 1700 et quelques. À cette époque-là, a priori, on en mangeait, on en consommait énormément. Puis il y a eu une grosse baisse de fabrication. Ensuite, ça revient petit à petit. Qu'est-ce qui vous a appris à fabriquer le bleu du Kira?
Donc, c'est, je dirais, nos études qui nous ont permis de travailler sur le lait. Et à force de faire des essais, d'échanger avec les autres fromageries, ça nous a permis, je dirais, d'améliorer la qualité du bleu du Kira. Voilà, en termes de chiffres, à la fromagerie de la Durance, en 2015, on fabriquait à peu près une tonne et demie de bleu du Kira. Et aujourd'hui, en 2021, on a transformé plus de 40 tonnes de bleu du Kira. Donc, en travaillant sur la qualité, la texture, le persillage et l'onctuosité, surtout, voilà, le bleu du Kira, c'est un fromage qui est relativement onctueux, gras, limite coulant. Donc, par rapport à toute la famille des pâtes persillées qu'on a en France, je dirais, il ressort beaucoup plus en termes de texture. Voilà. C'est quelque chose qui est fondant dans la bouche.
Si on le compare au Gorgonzola, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre les deux?
Le Gorgonzola, voilà, il va être beaucoup plus coulant et se mangera à la cuillère, alors que le bleu du Kira, on peut encore le couper au couteau. Donc,
une méthode d'affinage. Comment on obtient cette différence?
La différence, voilà, elle vient de l'affinage. On a un affinage qui est un peu plus court que le Gorgonzola. Et après, au niveau de la technologie, voilà, le Gorgonzola, on va être un fromage qui est beaucoup plus humide au moment du moulage, contrairement au bleu du Kira. Et nous, voilà, le bleu du Kira, on cherche à avoir un bleu qui est relativement doux. Donc plus il est, voilà, plus il va être âgé, plus il va être persillé et fort. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche sur le bleu du Kira comparé au Gorgonzola Picante. Voilà.
Combien de temps d'affinage pour un bleu? Du Kira,
le minimum d'affinage qui est mis dans le cahier des charges, c'est 30 jours après la date de fabrication.
On va en parler de ce cahier des charges, puisque vous avez lancé depuis 2017 l'idée d'avoir un label, l'AOP, l'appellation d'origine protégée. On va en parler avec vous, Anaïs, dans quelques instants. C'est vrai que la pandémie aussi, depuis 2 ans, a fait peut-être redécouvrir à plein de gens les circuits courts, d'acheter plus en local. On va en parler avec vous, avec la Chambre d'agriculture, parce que vous avez mis plein de choses en place pour pouvoir se retrouver avec des produits locaux de très bonne qualité au niveau local et en faire parler évidemment au niveau national. On va en parler dans quelques instants, on va marquer juste une toute petite pause. Et puis on va vous offrir également, chères auditrices et chers auditeurs, pour cette matinée, des bons cadeaux de 30 euros avec la coopérative des artisans du Caira, pays du Viseau. Si vous avez envie de repartir avec un petit bon d'achat de 30 euros, je pense que vous allez pouvoir retrouver des bleus du Caira en plus à cette coopérative. Ça se passe au standard 04 92 52 25 25 04 92 52 25 25. Nous sommes ce matin avec Jérôme Tramuset, nous sommes avec Alexandre Lagier, Anaïs Signoret et Christophe Calais pour parler du bleu du Caira. Restez avec nous, on marque une toute petite pause, à tout de suite.
Et vous ? Alpe 1 et vous ?